Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, le coronavirus, détecté bien au-delà de son foyer d'origine avec Dominique André, les dernières mesures prises par Pékin et en France, les mesures dites barrières à la disposition des soignants. Au Liban, le régime confessionnel encore est toujours contesté dans la rue. Un scrutin législatif au Pérou qui pourrait conduire à un émiettement de la classe politique. Enfin, deux développements à l'affiche de la face cachée du globe, signée Nabila Hamel. L'extension controversée du domaine maritime marocain et une nouvelle invasion de criquets pèlerins en Afrique de l'Est. De Wuhan à Shanghai, de son épicentre à la ville la plus peuplée de Chine où un décès est signalé, le coronavirus chemine et les derniers relevés viennent alimenter l'inquiétude de populations d'ores et déjà soumises à bien des restrictions. Dernier bilan date 56 morts et plus de 2000 personnes contaminées et des autorités, Dominique André, qui s'emploient à fabriquer de solides digues sanitaires.
La dernière mesure, c'est l'interdiction temporaire du commerce des animaux sauvages en Chine. L'épidémie serait peut-être partie d'un marché de Wuhan où était vendu ce type d'animaux. Pour tenter d'enrayer la diffusion du virus, le gouvernement chinois a restreint la circulation des habitants et des véhicules. Dans de grandes villes comme Pékin ou Shanghai, les lignes d'autocars longue distance qui les relient au reste du pays sont suspendues. Les agences de voyage chinoises ont reçu l'ordre de ne plus organiser de voyages de groupe en Chine et à l'étranger. À Wuhan, ville fantôme où 11 millions d'habitants vivent confinés, des haut-parleurs appellent les personnes souffrantes à se rendre rapidement à l'hôpital. Plus de 3 millions de masques sont arrivés aujourd'hui en provenance des Philippines. Les États-Unis ont annoncé qu'ils évacueront mardi prochain leur personnel diplomatique en poste à Wuhan et une partie des expatriés américains par avion de Wuhan à San Francisco. Pour la communauté française de Wuhan, aucune date n'a été annoncée pour une évacuation prévue dans des autobus à Changsha, une ville située à 300 km. L'école française de Pékin repousse la rentrée scolaire après les vacances, reportées de mercredi au 17 février.
Correspondance de Pékin de Dominique André, un médecin français en poste à la clinique internationale de Wuhan, souligne, ce sont ces termes, que la communauté française vit dans la peur. Ce matin, des voyageurs en provenance de Chine ont été surpris par la légèreté du dispositif en place à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Les festivités du Nouvel An chinois ont été annulées ce dimanche à Paris. Moyennant quoi, faut-il s'alarmer ou bien ne pas se laisser happer par des perceptions anxiogènes? Élément de réponse avec le docteur Agnès Ricard-Hibon, présidente de la Société française de médecine d'urgence.
Nous sommes très bien préparés, très bien organisés et nous sommes à un moment crucial du début d'épidémie. Si on applique les bonnes mesures barrières, on peut très bien éviter que l'épidémie s'installe. Donc il est extrêmement important de passer les bonnes informations à l'heure actuelle qui sont d'appeler le 15 quand on a des symptômes et qu'on revient de Chine ou quand on a été en contact avec un patient qui a des symptômes et qui revient de Chine, de façon à ce que ce patient soit repéré très rapidement, qu'on évite les personnes contacts et qu'il puisse être orienté rapidement dans les services spécialisés. Et pour ça, il faut appeler le 15. Il ne faut pas aller dans les services d'urgence, il ne faut pas aller dans les cabinets médicaux, dans les salles d'attente où les patients pourraient être contaminés. Il faut appeler le 15. Il y a des professionnels de santé et c'est tout le bénéfice et la plus-value du système français où il y a un médecin au téléphone qui peut interpréter les symptômes et classer les cas suspects en cas exclus, qui sont la majorité des appels qu'on a à l'heure actuelle. On peut éliminer et rassurer. Et puis s'il y a quelques cas possibles, à ce moment-là, on les transfère directement dans les services spécialisés sans passer par des salles d'attente. Il y a très très peu de cas à l'heure actuelle et si on met bien en place les mesures barrières, si on respecte bien les consignes de prévention et de sécurité, on peut éviter la pénétration de l'épidémie. Et donc cette procédure, elle est extrêmement bien rodée. On l'a déjà appliquée pour le SARS, on l'a déjà appliquée pour le MERS-CoV au Moyen-Orient, pour l'Ebola, ça fonctionne.
Des propos recueillis par Solène Lehen. Comme hier, les forces de sécurité irakiennes ouvrent le feu sur des manifestants anti-gouvernementaux à Bagdad ainsi que dans plusieurs villes du sud du pays. Des dizaines de blessés, deux violents affrontements entre forces de l'ordre et contestataires, cette fois au Liban. 100 jours de défiance, aucun apaisement en vue. La rue refuse toujours de s'en remettre au gouvernement dont la composition a été rendue publique mardi dernier. Beyrouth, Clotilde Bigot.
Au centième jour de contestation, ce samedi, de nouveaux heurts ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre, faisant 20 blessés. Les manifestants se sont massés place Riyad al-Salah au pied du Grand Sérail, siège du gouvernement et résidence du Premier ministre Hassan Diab, qui a formé son gouvernement mardi dernier. Ce gouvernement rejeté par la rue est affilié au parti politique conspué par les manifestants. Tous les ministres sont ainsi proches du Hezbollah et de ses alliés. Les manifestants ont scandé le slogan « Pas de confiance », demandant au Parlement qui doit, selon la Constitution, accorder sa confiance au gouvernement avant qu'il ne puisse officiellement exercer, de ne pas la lui accorder. Cette crise politique s'accompagne d'une grave crise économique avec une dévaluation de la monnaie de 25% par rapport au dollar. Emmanuel Macron a appelé son homologue Michel Aoun en exprimant sa volonté de réformes qui répondent aux aspirations exprimées par les Libanais.
Les forces du régime syrien progressent et seraient aux portes de Maret al-Nouman, la deuxième plus grande ville de la province d'Idleb dans le nord-ouest du pays. Information que l'on doit à l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'embargo sur les armes violé à l'est comme à l'ouest de la Libye ces 10 derniers jours, constat et indignation des Nations Unies. Embargo violé malgré les engagements pris par les États concernés de cesser les livraisons aux belligérants lors d'une conférence qui s'est tenue dimanche dernier à Berlin. Les Italiens votent aujourd'hui en Calabre, qui devrait basculer à droite, mais votent aussi en Émilie-Romagne, un bastion de la gauche. Quel que soit le résultat, Matteo Salvini, le chef de l'opposition et de la Ligue, a déjà prévenu qu'il demandera des élections anticipées. Certes, mais selon Riccardo Brizzi, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bologne, le gouvernement n'a aucune raison d'accepter.
Les gouvernements, même si c'est un gouvernement faible, même s'il perdra en Émilie-Romagne, il n'acceptera pas les accusations et les demandes d'envoi anticipées par Salvini. Et le gouvernement jouera sa stabilité sur ses propres faiblesses. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui naît d'un mariage entre deux partis qui connaissent une profonde crise. Les mouvements 5 étoiles, une crise de leadership et une crise interne, puisqu'il a perdu plus que la moitié de son électorat en année et demie. Et donc, il n'a aucun intérêt à aller à des élections. Et, tandis que le Parti démocrate est dans une phase de pleine rénovation qui sera augmentée, amplifiée par les mouvements des sardines avec lesquels le Parti démocrate est en train de chercher, disons, un accord. Et donc, il s'agit de deux partis qui sont très faibles et qui fera le tout pour tout pour rester encore au gouvernement, n'importe quel sera le résultat de ces élections régionales.
Riccardo Brizzi, sollicité par Bruce de Galzin. Une place militaire malienne de nouveau prise pour cible dans le centre du pays. Au moins 15 gendarmes abattus lors d'une attaque attribuée à des djihadistes contre le camp de Sokolo dans la région de Ségou. Déclaration il y a quelques minutes d'un élu de cette localité. Les terroristes sont arrivés à moto, ils étaient très armés, sont rentrés dans le camp et ont emporté beaucoup de matériel. Fin de citation. 24 millions d'électeurs convoqués aux urnes ce dimanche pour une élection législative extraordinaire au Pérou. Scrutin issu de la dissolution du Congrès en septembre dernier par le président Martin Vizcarra. Les nouveaux élus ne seront en fonction que 14 mois pour terminer le mandat interrompu en septembre. Le chef de l'État espère ainsi que cette élection mettra fin à ce qui s'apparente à une impasse politique. Éric Sanson nous appelle de Lima.
C'est un congrès absolument discrédité que les Péruviens s'apprêtent à remplacer. Depuis plus de 3 ans, le parti fujimoriste Force Populaire a choisi l'obstruction systématique contre le président Pedro Pablo Kuczynski d'abord, puis contre son remplaçant, l'actuel chef de l'État Martin Vizcarra. Il y a 4 mois, ce dernier a utilisé une disposition constitutionnelle pour convoquer de nouvelles élections. Une décision approuvée par 80% de la population selon les sondages, et notamment dans le quartier pauvre de Pachacutec, où vit Agnès Friant, qui dirige une organisation humanitaire, Altiplano Lima.
Le fait de fermer le congrès pour les gens, ça a été quelque chose de très positif, parce qu'ils sont de toute façon tous pourris qu'ils s'en aillent. Donc le fujimorisme, finalement, c'est couper l'herbe sous les pieds. Ils étaient tellement contre qu'à la fin, c'est allé contre eux-mêmes.
Crédité de 7 à 14% selon les derniers sondages, le parti fujimoriste devrait perdre sa majorité absolue. Des chiffres apparemment contradictoires, mais qui s'expliquent par le fait que près de la moitié de la population ne sait toujours pas pour qui voter. Une dizaine de partis et mouvements devraient atteindre les 5%, niveau minimum pour obtenir des sièges, dont Action Populaire et le Parti Violet, deux groupes de centre-droit, et l'Alliance pour le Progrès du Pérou, formation de l'homme d'affaires César Acuña. Le président Martín Vizcarra, lui, ne disposera d'aucun groupe officialiste.
Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. S'il a été l'un des premiers dirigeants européens à reconnaître Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela, l'Espagnol Pedro Sanchez ne l'a pas rencontré cette semaine lors de son passage à Madrid. C'est la ministre des Affaires étrangères qui s'en est chargée. La droite espagnole y voit une attitude liée à l'entrée au gouvernement du parti de la gauche radicale Podemos, proche de Caracas. Le chef du gouvernement espagnol s'en défend et évoque la nécessité de mettre en avant un dialogue pour mettre fin à la crise au Venezuela. En tournée européenne, Juan Guaido a été reçu cette semaine par le Britannique Boris Johnson et par Emmanuel Macron. Après une accalmie de plusieurs mois, les combats ont repris à l'est de la capitale yéménite. En un peu plus d'une semaine, les rebelles houthis ont fait une percée sur des positions sous le contrôle des forces loyalistes depuis 3 ans. Sanaa accuse les milices chiites d'avoir tué 116 soldats dans un tir de missile. Les houthis font, eux, état de 30 attaques aériennes en 3 jours menée par la coalition sous commandement saoudien. Le Parlement marocain a voté mercredi à l'unanimité 2 projets de loi destinés à établir la compétence juridique du Maroc sur l'ensemble de son domaine maritime. À y regarder de plus près, cela s'est traduit par l'élargissement de ses eaux territoriales en incluant les eaux du Sahara occidental considérées comme un territoire non autonome par l'ONU en l'absence d'un règlement définitif. Ces lois ont été immédiatement contestées par le Front Polisario, mais pas seulement. Marie-Hélène Ballesteros, vous êtes notre correspondante à Madrid, elles ont également provoqué une levée de boucliers en Espagne.
En fait, cela fait des années que la délimitation des eaux territoriales suscite des tensions entre le Maroc et l'Espagne. Rappelons qu'au large du Sahara occidental et du Maroc, il y a les îles Canaries. Or, cette nouvelle délimitation pourrait affecter directement les eaux de cet archipel espagnol. D'où la colère ces derniers jours du gouvernement autonome local, des groupes nationalistes des îles Canaries et des partis de l'opposition à Madrid qui ont dénoncé la décision unilatérale du Maroc qui porte atteinte à la souveraineté des Canaries et donc de l'Espagne. Le parti nationaliste Coalition Canarias a même demandé à l'État espagnol à saisir les Nations Unies contre cette agression. Mais pourquoi ces eaux sont-elles si précieuses? Il y a en fait aussi un intérêt économique. Au sud des Canaries se situe l'ancien volcan tropique qui constitue un véritable trésor. Selon les experts, il serait riche en certains minéraux rares comme le tellure, un matériau clé dans la fabrication de panneaux solaires.
Et cette décision marocaine sur les eaux territoriales est d'ailleurs à l'origine de la visite que vient d'effectuer à Rabat la nouvelle chef de la diplomatie espagnole, Arantxa González-Laya.
Il s'agissait du premier déplacement à l'étranger de la chef de la diplomatie espagnole. C'est dire l'importance des relations bilatérales hispano-marocaines. Face caméra, ils ont voulu transmettre un message d'entente et d'apaisement. Nasser Bourita a rappelé le droit souverain du Maroc à délimiter ses espaces maritimes tout en affirmant qu'il n'y aura pas de politique unilatérale. C'est donc à travers le dialogue et d'un commun accord que les deux pays vont tenter de trouver des solutions si les espaces maritimes se chevauchent et en respectant les règles de la Convention des Nations Unies. Un message d'apaisement que la ministre González-Laya a tenu hier à transmettre de vive voix au président des îles Canaries, même si l'Espagne restera vigilante.
Un ciel qui s'assombrit, des nuées de criquets pèlerins qui s'abattent ces dernières semaines sur la végétation et la dévastent en quelques heures. L'Éthiopie et la Somalie n'ont pas connu un tel phénomène depuis 25 ans, le Kenya depuis 70 ans. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, alerte sur une menace pour la sécurité alimentaire de l'ensemble de la sous-région. Les explications de Benoît Bouscarel.
C'est la succession d'épisodes de graves sécheresses et d'inondations ravageuses qui a favorisé l'expansion des essaims de criquets pèlerins sur l'Afrique de l'Est, dont le plus gros, d'après la FAO, couvre une surface de 2400 km². Il pourrait compter quelque 200 milliards d'insectes. D'Éthiopie et de Somalie, la menace est arrivée jusqu'au Kenya au mois de décembre, progressant vers le sud et l'ouest. Les criquets qui peuvent parcourir 150 km en une seule journée menacent désormais le Soudan du Sud et l'Ouganda. Pour l'instant, ce sont surtout les éleveurs des régions concernées qui souffrent de la situation. Les insectes s'en prenant aux moyens de subsistance du bétail, mais les agriculteurs déjà s'inquiètent à l'approche de la prochaine saison des semis qui doit commencer en mars. La course contre la montre est donc engagée et face à l'énormité de la menace, c'est par avion qu'il faut désormais envisager la lutte antiparasitaire. Pour venir en aide aux autorités locales, la FAO envisage de mettre en place un plan d'aide concerté incluant des mesures d'information, de prévention et de soutien. Elle recherche pour cela quelque 70 millions d'euros qui qui seront nécessaires également au rétablissement des moyens de subsistance de populations locales souvent très éprouvées après 3 années de sécheresse.
À dimanche prochain.
Merci à vous, Nabil Hamel. À dimanche prochain, quelques mots de la météo de l'après-midi. Des pluies plus régulières et marquées sur la Bretagne, puis la Normandie et les Pays de la Loire. Hormis sur le Roussillon et le sud de l'Aquitaine avec un retour timide du soleil. Ciel dit encombré ailleurs. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue. À la technique, Olivier Arnet.